Comment on s'appelle la paracha? Toldot. Et la semaine dernière déjà? On va voir un petit peu Chaya Sara, si vous permettez. Abraham, il a envoyé Eliezer pour chercher Rivka. Alors Eliezer a dit à Abraham, Oulai lo tove haisha lelechet achara el haaretz hazot. Peut-être cette femme ne voudrait pas venir ici. Hashem hashiv et bincha, est-ce que je vais ramener Yitzhak là-bas? Alors Abraham Avinu, il dit surtout pas, tu ne me ramènes pas Yitzhak là-bas. Mais HaKadosh Baruch Hu yishlach malacho lefanecha velakachta isha livni liYitzhak. Hashem va envoyer son ange, il va t'aider et tu vas réussir à amener la fille ici. Très bien. Alors Eliezer, il est parti. Tout le monde connaît l'histoire, depuis, etc., etc. Et après, il est rentré dans la maison de Bethuel et Lavan et il leur a raconté tout ce qui s'est passé. Tous les dialogues qu'il a eus avec Abraham, il leur a raconté. Voilà, mon maître, il m'a envoyé. Et moi, je disais à mon maître, peut-être la fille ne voudrait pas venir. Et mon maître, il m'a dit, n'a pas peur, Hashem yishlach malacho lefanecha, v'itzliach darkecha, v'lakachta isha livni. Et Hashem, il va te faire réussir ta route, et tu vas réussir à trouver la fille, et tu vas la ramener. Alors, on voit ici le discours que Eliezer a dit à Bethuel et Lavan, et le discours qu'Avram, il a dit à Eliezer, n'est pas à 100% identique. Eliezer, il a ajouté deux mots qui ne sont pas marqués dans le discours d'Abraham. Abraham, il a dit, Hashem va envoyer Malacho le Fanaf, velakachta isha livni. Il va envoyer l'ange et tu trouveras la femme et tu vas amener la femme et ce sera bien. Mais Eliezer, il a ajouté deux mots. Hashem va envoyer Malacho le Fanecha, vehitzliach darkecha. Il va réussir ton voyage. Il a ajouté le mot Vitzliach Darkecha. Tu vas réussir ta route. Abraham n'a pas dit va faire réussir la route. D'ailleurs, ce n'est pas important, réussir la route, pas réussir. Ce qui est important pour Abraham, c'est qu'il réussit de ramener la fille. C'est ça qui est important. Donc l'expression d'Abraham, il est tout à fait justifié. Yishlach malacho lefanav, velakachta isha livni. Mais Eliezer, on dirait qu'il avait un deuxième plan. Il a dit qu'à Avram, il a dit, je vais réussir, tu vas réussir ta route et tu vas trouver la femme. Pourquoi il ajoute ce qu'Avram n'a pas dit? Mais la question, elle est plusieurs fois dans le discours d'Eliezer. Dans le discours d'Eliezer revient plusieurs fois le mot « la réussite de la route ».« Vaish mishtaela lada'at ha'itzliach Hashem et darko imlo ». Et l'homme, il était étonné, il attendait, il était très ému à savoir si Dieu a fait réussir sa route ou pas. Il parle de nouveau de la réussite de la route. En vérité, ce n'est pas une réussite de la route. La réussite, c'est de ramener Rivka. Ça, c'est. La route n'est qu'un moyen. Mais il a dit, je m'étends, il était excité. Est-ce que Dieu m'a fait réussir ma route ou pas? Après, quand il était déjà dans la maison de Lavan et Bethuel, il dit, maintenant, je sais, Baderech Hinchani Hashem, Bet Adoni Avraham. Sur la route, Dieu m'a envoyé dans la maison du frère de mon patron. C'est que veut dire quoi, Baderech Hinchani Hashem? Sur la route. Ça veut dire quoi, la route? La bonne route. Dieu m'a conduit sur la bonne route. Encore une fois, Eliezer parle de la route. Plus loin, il dit, Hinchani bederech emet. Dieu m'a conduit sur la route de la vérité d'arriver chez le frère du patron, de mon patron. Bederech emet, une expression un peu forte. Le chemin de la vérité. C'est-à-dire quoi le chemin de la vérité? Je ne me suis pas trompé de route. Bon, d'accord, ça, tu n'étais pas trompé la route. Ça s'appelle le chemin de la vérité. Je n'ai pas trompé la route, ça s'appelle le chemin de la vérité. Vous prenez un métro et vous avez peur de ne pas prendre le bon métro. Et bon, je vais trouver le bon métro. Vous dites, voilà, le véritable métro, le chemin de la vérité. Plusieurs fois, ça, il répète la réussite, le chemin de la vérité. Mais je vais ajouter ici encore quelques questions. Le texte, il dit, Abraham Zaken, il était vieux, il a appelé Eliezer, voilà, cherche-moi la femme pour mon fils, très bien. Vaikach ha'evet, asara gemalim, migmale adonav, vayelech. Vechol tuv adonav, biado. Vayakom vayelech aram naharaim, lir nachor. Le Eved Eliezer, il a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Vayelech, et il est parti. Vechol tuvadonav biyado, et tous les biens de son maître étaient dans sa main. Vaya, comme il se levait, vayelech, il est parti, el aram naraim el ir nachor. On va regarder un petit peu la composition de ce verset. Il y a quelque chose qui tourne par an. Vous remarquez qu'est-ce qui tourne par an ici? Il est marqué 2 fois le mot vayelech. La première fois, sans le mot vayakom, que le mot vayelech. Et la deuxième fois, vayakom vayelech. Il s'est levé, il est parti. Je répète le verset. Vayekach ha'evet asara gmalim migmale adonav. L'esclave, il a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Vayelech, et il est parti. Très bien, il est parti. Le verset continue. Vechol tuv adonav biyado. Tous les biens de son maître dans sa main. Vayakom, et il se levait. Vayelech, il est parti. El haram naraim el ir nachor. 2 fois le mot vayelech. Déjà, c'est étonnant. Les deux vayelech sont séparés avec une petite nuance. Vechol tuv adonav biyado, et tous les biens de son maître est dans sa main. Ces mots, il aurait dû être marqué avant le vayelech. Le texte, il aurait dû dire vayikach ha'evet asara gmalim migmale adonav vechol tuv adonav biyado, et après il est parti. À part ça, le texte il dit Vayakom Vayelech. Il se levait et il est parti. Pourquoi la Torah nous dit il se levait? Mais si un homme il part, il est obligé de se lever. Si tu restes assis sur ta chaise, ben, tu ne bouges pas. Il n'y avait pas des chaises roulantes. C'était pas. Évidemment, Vayelech, il part. Bon, avant de partir, on se lève de la chaise et on part. Pourquoi la Torah doit me dire Vayakom Vayelech? Alors, l'Agma nous dit sur Balaya qu'on voyait l'air qu'Eliezer y voyageait un peu spécial. C'était pas un simple voyage. C'est pas un voyage comme nous le faisons. Il est parti de Beersheba ou de Hebron jusqu'à Haran, ça fait 900 kilomètres. Et il est arrivé le même jour. Vavo, Hayom El Haïn est raconté à la main de Betuel. Aujourd'hui je suis parti. Aujourd'hui je suis arrivé. C'est-à-dire, il voyageait dans 2-3 heures, 900 kilomètres. Comment il a fait? Kfitzat aderech. Un miracle, kfitzat aderech. Pip, a été là-bas. Ça, c'est vayakom vayelech. Ce n'est pas une halicha normale. C'est vayakom. Il y avait un miracle, vayakom vayelech. Très bien, on comprend le sens du mot vayakom. Mais ce vayakom n'est intervenu qu'après un petit détail. Vekol tuv adonav biyado, tous les biens de son maître est dans sa main. Il n'est pas marqué, il a pris les 10 chameaux, vayakom vayelech. La prise des chameaux n'a pas encore provoqué kfitzat aderech. Il fallait encore une condition, il fallait encore, vekol tuv adonav biyado, tous les biens de son maître dans sa main, et maintenant il a eu kfitzat aderech. Alors, il nous reste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire va chol tu va donaf viado, tous les biens de son maître dans sa main. Ça veut dire quoi? C'est quoi tous les biens de son maître? Quels étaient les biens d'Abraham? C'est quoi les biens d'un homme? Quoi? Sa richesse. Alors, elle était composée comment la richesse d'Abraham?
Chameau.
Des
bijoux.
Bijoux. Le bétail.
Des terres.
Quoi?
Il avait des terres aussi.
Des terres. Alors, toutes les terres d'Abraham étaient dans sa main. Tous les lingots d'or étaient dans sa main. Tous les 1000 moutons étaient dans sa main. Eh ben, il y avait une grande main, Eliezer. Comment il peut avoir tous les biens dans sa main? Comment il peut mettre tous les biens d'Abraham dans sa main?
Il les a vendus.
Allez. Quoi?
Il les a vendus.
Abraham, il a tout vendu. Gratos.
Non.
Ah, il a reçu des lingots. Donc, il a reçu 50 lingots. Et tous les 50 lingots, il a donné à Eliezer. Psh, il est bien celui-là. On parle pas de ces types de biens. Alors, de quel type on parle? Il a mis la hashkafa dans la main. Alors. La façon d'être, il a mis dans la main. Alors, Rashi d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rashi, il dit, il lui a donné un papier, un parchemin. Sur ce parchemin, il a dit, moi, Abraham, propriétaire de milliards, tout ce que j'ai, je lègue à mon fils Yitzhak. Très bien. Chol trouve tous les biens dans sa main, ce papier qu'il a tout donné à Yitzhak. Quel est le but de donner ce papier dans la main d'Eliezer? Parce qu'après Eliezer, il leur a raconté, sachez que mon patron, il est très très riche. Et toute cette richesse, il a léguée à son fils Yitzhak. Pourquoi il a raconté ça à Lavan? Pour que Lavan, il sera intéressé de donner sa sœur, à marier sa sœur à un Richard. Mais peut-être Bethuel et Lavan vont dire, non, mais la richesse d'Abraham, ça va donner la main d'Ishmaël. Alors il leur a dit, non, il a tout donné à son fils Yitzhak. Donc l'épouse qui va épouser ce monsieur, automatiquement, elle sera milliardaire. Très bien. Dans ce cas-là, le but de ce papier, c'est de montrer ce papier à Bethuel et Lavan. Or, le texte ne dit pas qu'il a montré. Le texte, il dit, Eliezer, il est venu, il a dit, sachez, va donner à Abraham, Nathan et Kol Asherlo, l'Yitzhak. Et il n'est pas marqué qu'il a montré. Mais c'est sous-entendu. Il faut ajouter ça dans le texte, il faut comprendre, il ne faut pas être bête. Quand il a dit qu'Abraham, il a tout donné à Yitzhak, Lavan, il a dit, vous avez des preuves qu'il a tout donné à Yitzhak? Regardez. Voilà, c'est bon, d'accord. Le texte ne le dit pas, sous-entendu. Peut-être. D'accord, ça va. Mais, en vérité, v'chol tuv adonav biyado, tuv les biens d'un homme. Chez nous, les biens d'un homme, c'est son argent, ses terres, ses animaux, ses lingots, etc., etc. Mais quel est vraiment le bien d'un homme? V'chol Ma rav tuvra asher tsafant el yirecha. Qu'est-ce que c'est? Ma rav tuvra asher tsafant el yirecha. Combien c'est donc ton bien, le bien que Dieu il donne au tzadikim? Quel est le bien que Dieu donne au tzadikim? C'est le Gan Eden. Le vrai tuv d'un tzadik, c'est pas son argent. Son argent, c'est dans ce monde, mais le vrai tuv, c'est le Gan Eden. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, v'chol tuv adonav biado? Tout le bien que le maître a ramassé, a gagné, il a donné dans la main. Le vrai tuv, c'est le Gan Eden. Il a mis le Gan Eden dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Marqué dans la Gemara qu'il y a 9 personnes dans le monde qui ont eu un mérite spécial de rentrer vivant au Gan Eden. une des neuf personnes, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham. C'est un truc spécial. Ils sont rentrés vivants au Gan Eden. Normalement, les gens sont obligés de mourir pour retourner au Gan Eden. On peut pas rentrer comme ça, vivant. Ça change quoi si on rentre vivant ou mort au Gan Eden? C'est quoi la différence? Le pshat, il est comme ça. Marqué dans Chumash par cette Bereshit, Hachem, il a chassé Adam et Chava du Gan Eden. Vaigaresh et Ha'adam. Il a chassé. Tu sors du Gan Eden. Vaigashken mikedem le Gan Eden et Takruvim. Vet lahat hacheref amitapechet lishmor et derech et tzachayim. Donc, on s'imagine un jardin. Ici, à l'arbre de la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Là, on vit éternellement. Gan Eden olam haba. Vous sortez maintenant. Allez-y vous promener ailleurs. Et il y a une porte. Et à cette porte, il a mis Kruvim. C'est quoi Kruvim? Rashi dit dans Chumash, Malachei Chavala. Des anges qui font du mal. Des anges qui sont sérieux, des policiers. Ils ont une arme dans la main. Vet lahat, hacheref, amitapechet lahat, une lame, hacheref, d'une épée, amitapechet, qui tourne. Donc on va s'imaginer littéralement, il y a un ange, il a une épée, une bonne lame, et il tourne. Un mixeur, un Kenwood mixeur. Alors il est à la porte comme ça, il tourne. Lishmor, afin de garder, protéger, et derrière la route, et Tzachayim qui arrive vers l'arbre de la vie. C'est-à-dire que si un homme il dit, ah ici c'est le Gan Eden, je vais rentrer, eh bien il va se faire mixer. Il va se couper en pièces détachées. Alors, comment on va rentrer au Gan Eden? Alors, ça y est, c'est fini. On peut plus rentrer au Gan Eden. Mais il faut que les types, ils s'arrêtent. Il faut aller là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux rentrer au Gan Eden? Pourquoi? Eh ben, j'ai envie. Oui. Et j'ai fait des mitzvot. Ah oui. Et des averot? Ça vous intéresse? Et attendez. On rentre pas comme ça au Gan Eden. Vous pouvez me parler. Arrêtez de tourner votre épée. Moi, j'arrêterai à tourner l'épée quand vous allez recevoir la permission. Il arrive un homme, il a déjà payé ses péchés, il a eu des Issourim, il a eu Gilgul, il a eu, je sais pas, ou Gehinnom. Oui, il s'est arrangé, il s'est arrangé avec le bon Dieu. Vous avez un papier que vous êtes nickel. Oui, le Beit Din Shel Ma'ala m'a donné la permission. Ah, très bien. Le Malachi s'arrête. Monsieur, vous pouvez rentrer. À peu près comme ça, il faut s'imaginer. Bon, c'est un petit peu spécial, mais à peu près comme ça, je m'imagine l'histoire. Il faut avoir un laissez-passer pour entrer au Gan Eden. Normalement, le laissez-passer, ça passe par le Malachamavet, avec un Mishpat, toutes sortes de choses. Sinon, on ne peut pas rentrer. Il y a 9 personnes, ils sont rentrés sans problème. Une des 9 personnes, c'est Rabbi Shur ben Levi. Il y a toute une Agada, la Gemara. Avant de mourir, le Malachamavet est venu chez Rabbi Shua ben Levi, et il a dit, tu sais, Dieu m'a envoyé pour prendre ton âme, pour t'amener au Gan Eden. Je t'amène ton âme. Alors, Shua ben Levi dit, tu veux que je te prenne, quoi, tu veux m'accompagner? Il dit, oui, oui. Il dit, donne-moi ton couteau. C'est une image, c'est pas un couteau, c'est, je sais pas, donne-moi ton couteau, la Malachi a dit un couteau, donne-moi le couteau. Bon, c'est son copain, il lui a donné le couteau. Alors, ils sont arrivés avant la Gan Eden. Et avait le mur. Alors, je lui ai dit, je vais te jeter un coup d'œil. Bon, alors, jette un coup d'œil. Il monte sur le mur. Bah, et il saute. Ça y est, il est dedans. Alors, Malachi m'a dit, retourne tout de suite. Et non, je ne retourne pas, ça y est. Je suis rentré à Gan Eden et tu ne m'as pas embêté. Il dit, alors, rends-moi au moins le couteau. Il dit, je ne te rends pas le couteau. Alors, il dit, mais il me faut le couteau. Alors, à Kadesh Baruch, il dit, je suis Lévi, rends-lui le couteau. Parce qu'il a besoin, ça fait partie du projet du monde. Le Malachi Mavet, quand il a besoin d'amener des gens de ce monde dans l'autre monde, il est obligé de les égorger. Rends-lui le couteau. Alors, Rabbi Shimon Levi dit, je te rends le couteau, prends le couteau, mais moi je suis déjà ici. C'est une image, comme ça l'Agma nous raconte. Eh bien, Eliezer aussi, il a quelque chose du genre. Il est rentré vivant au Gan Eden. Quel était son mérite? Le mérite, il était parce qu'il a fait la mission qu'Abraham lui a confié. Ça veut dire qu'Abraham, il s'arrangeait, il a dit à Eliezer, écoute-moi, si tu fais la mission comme il faut, tu auras une récompense. Eliezer dit, ah, j'aurai une récompense. quelle récompense j'aurai, maître, pour ce que je t'amène, Rivka? Eh ben, tu peux rentrer vivant au Gan Eden. Ça, c'est une bonne affaire. Ça, c'est une bonne affaire. Parce qu'Eliezer, il avait une fille. Il voulait bien donner sa fille à Yitzhak. Elle était une tzadikette. Elle connaissait Abraham et Sarah. Elle était élevée toute sa vie dans cette maison. Elle était bien. Elle rêvait de se marier avec Yitzhak. Abraham lui dit, je veux que tu prends la femme là, sa cousine de Yitzhak. Je veux pas. Alors, c'était difficile pour Eliezer. Mais Abraham lui dit, je te donne une récompense. Le Gan Eden, tu n'auras pas de problème. Psst, ça c'est une bonne affaire. Vechol tuv Adonav beyado, tous les biens d'Abraham dans sa main. La Gemara nous parle, il lui a signé un papier avec tous ses biens. Mais ce n'est pas seulement les biens en argent. Les biens en argent, ça tu vas montrer à Lavan. Lavan, il veut savoir si Yitzhak il est riche. Tu vas lui montrer. Ça veut dire, c'est comme si un papier, un double papier. Ici, c'est marqué, tous les milliards d'Abraham sont à Yitzhak. Ça, tu montres. Si Lavan, il veut une preuve ici. Mais sur l'autre côté, il marque autre chose. L'autre côté, c'est marqué, ce monsieur-là, quand il arrivera à la porte du Gan Eden, vous allez laisser rentrer sans problème. Bechol tov, la promesse qu'Abraham, il a Gan Eden, beyado. Il avait un papier, un laissez-passer. Laissez passer, tu veux rentrer. Des fois, il y a des endroits où il faut un laisser passer, sinon on ne peut pas rentrer. Tu veux rentrer en Amérique, il faut un papier, il faut un visa, il faut un truc, il faut un document. Eh bien, ce papier, il lui a donné Eliezer. V'chol tov Adonav biyado. Comment Abraham, il a pu promettre une chose pareille? Et qui a raconté à Abraham que le gardien du Gan Eden, il va le laisser passer, qu'il reconnaît ce papier? Alors, il faut revenir quelques versets plus tôt. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant cette histoire? Avant, il s'est passé que Sarah, elle se fait enterrer Marat Amarpela. Achren, chen, kavar, Abraham, et Sarah, ishto. Il a enterré Sarah, sa femme. Cet enterrement de Sarah a été très spécial. C'était pas un enterrement normal. Il a enterré dans Marat Amarpela. Marat Amarpela, c'était pas un cimetière ordinaire. Alors, pourquoi il cherchait la Marat Amarpela? Pourquoi il voulait pile la Marat Amarpela? Même ça lui a coûté 400 millions de dollars, il a payé très cher. Pourquoi il voulait la Marat Amarpela? Alors la Gemara raconte, quand les trois malachim sont venus chez Abraham, alors il a dit, je vais vous servir de la viande. Vel habakar ratz Abraham. Vers le veau, Abraham il a couru. Il n'a pas besoin de courir. Le veau il était dans son étable, il peut aller le chercher. Alors, nous raconte, le veau, il se sauvait. Alors, Abraham, il a couru derrière, et il se sauve, et court derrière. Où il a couru? Marat Amarpela. Et Abraham, il rentre dedans, et un tunnel, et il rentre, Abraham, il court derrière. Et d'un coup, Abraham avait une huisson, une odeur. Qu'est-ce que c'est comme odeur? Odeur du Gan Eden. Mais ça, c'est l'odeur du Gan Eden. Mais comment je suis au Gan Eden? Je suis au tunnel qui amène au Gan Eden. Il a compris la Marat Amarpela, c'est le passage vers le Gan Eden. Alors il est arrivé jusqu'au bout. Et qui il trouve au bout? Adam et Chava. Comme ça dit la Gemara. Il a trouvé Adam et Chava. Ils étaient à la porte du Gan Eden. Alors Abraham demanda, bonjour, et vous faites quoi ici? Il dit, on attend que la porte s'ouvre. Ah, la porte ne s'ouvre pas. Aïe, 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 aïe. Abraham, il a compris, c'est pas si facile. Ils veulent pas ouvrir la porte pour Adam et Chava. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelqu'un qui a des super mérites. Ils vont ouvrir la porte. D'accord, Abraham, il a compris l'histoire. Quand Sarah, il est niftar, il est allé acheter Marat Amarpela. Et après, il a enterré Sarah, la porte du Gan Eden s'est ouverte, et Sarah, elle est rentrée. Très bien. Alors, dans Bechava, ils ont dit, Abraham, tu peux un peu te protection? Alors, Abraham, il a dit, vous pouvez laisser rentrer Adam Bechava aussi. Ils ont dit, personne ne peut vous refuser votre volonté. Vous, Abraham, vous demandez quelque chose, votre souhait est pour nous un devoir. Si vous demandez laisser rentrer Adam Bechava, Adam Bechava, ils ont laissé rentrer. Et le texte dit, al acherei chen kavar Avraham et Sara ishto. Le Zohar, il demande pourquoi il a marqué le mot et. Serait-il suffisant de dire acherei chen kavar Avraham Sara ishto? Pourquoi et? Quand il est marqué un article et avant le nom d'une personne, ça inclut encore quelque chose. Pour dire qu'il n'a pas seulement enterré Sarah, sa femme, il a aussi enterré d'autres personnes. Qui? Adam et Chava. Achren, Kavar, Avraham, et Sarah. Avec Sarah, il a ajouté aussi Adam et Chava. Nous, Avraham a vécu longtemps, personne ne peut vous refuser. Je suppose que c'est à ce moment-là qu'Avraham il a demandé là-bas au gardien. Et vous savez, j'ai un serviteur, Eliezer. Oui. Et si jamais il va venir ici, il voudrait rentrer, vous allez le laisser rentrer? Ils ont demandé, vous pensez qu'il mérite? Il dit, s'il me fait un grand service exceptionnel, il faut le laisser rentrer. Vous êtes d'accord? On ne peut pas vous refuser, monsieur Avraham. Si vous le demandez, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, Avraham, tout de suite après Avraham, 3 années après, il demandait à Eliezer, tu me fais ce service et je te fais un cadeau, je te donne le laissez-passer. Ils m'ont dit au ciel qu'ils ne me refusent pas ce que je demande. Et il a marqué « V'chol atov adonav beyado ». Maintenant, quand Eliezer a reçu ce papier, là, il a eu « kvitzat aderech ». Il a eu un chemin de réussite. Pas seulement un chemin pour aller à Haran. C'est pas seulement un chemin pour réussir à amener Rivka. Si j'ai réussi à aller à Haran, et si j'ai réussi à trouver Rivka, j'aurai un laissé-passer, j'aurai une autoroute pour rentrer à Gan Eden. J'ai toute une autre la route derer Etz Chaim, j'aurai gagné la route au Etz Chaim. Ça, c'est ce que Eliezer il dit tout le temps. Eliezer, Avraham, il a dit, Dieu va t'envoyer Malach, va la karta isha livni. Je reviens à toutes les questions que j'ai demandées. Avraham, il a dit, Eliezer, tu as peur qu'elle va pas venir? Dieu va envoyer un ange et la carte Aïcha, tu vas réussir de trouver la femme. Quand il raconte aux autres, vous savez, mon maître, il m'a dit, Hashem ishlach malacho lefanecha, v'hitzliach darkecha, la carte Aïcha. Tu vas réussir ta route. Pour Eliezer, il y avait maintenant 2 choses. Je réussirai ma route. Ma route vers Gan Eden. Il raconte pas ça en détail à ces gens-là, mais lui, il est dans une logique. Je vais réussir ma route si je vais ramener ma fille, cette fille. Vaish mishta ela la daat ha haim haitzliach Hashem darki olo. L'homme, il était excité à savoir si Dieu m'a fait réussir ma route. C'est ma route personnelle. Est-ce que Dieu me fait cette autoroute vers le Gan Eden? Après, il dit, Baderech inchan Yashem, Baderech emet, Dieu m'a conduit sur le chemin de la vérité. Pourquoi le chemin de la vérité? Parce que je suis arrivé chez Laban Betuel, je suis maintenant prêt de réussir de prendre cette fille, et j'aurai mon chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est le chemin qui amène au Gan Eden. Maintenant, tout de suite après qu'il a eu donc cette promesse, V'chol tu vadunav biyado, vaya konvaye, l'echla ulu kvitsa de derech. Tant qu'il a eu que les 10 chameaux, il a pris les 10 chameaux, vaya ilech. Ça aurait été un voyage normal. Mais Avraham, il a dit, attends, Eliezer, t'as pris les 10 chameaux, oui, tu es prêt à partir. Je te fais encore un cadeau. Quoi, maître? Voilà. Tu auras ton billet pour le Gan Eden si tu réussis. Là, il a une aide du ciel. Là, le Malach qui va aider à Eliezer de ramener Rivka ne sera pas seulement une réussite pour amener Rivka, ça sera une réussite pour ta route éternelle. Alors là, les miracles de la route ont commencé. Là, il a eu Kvitzat Aderech. Il est arrivé à Haran. Alors, on va revenir un petit peu à ces histoires des chameaux, les chameaux de son maître. Rivka, elle a vu Eliezer avec les 10 chameaux. Non, Eliezer, il dit, tu peux me donner un petit peu de l'eau, il n'y a pas de problème, je vais vous donner à boire, et même aux chameaux. Pourquoi il a proposé de l'eau aux chameaux? Pour quelle raison? Lui, il a demandé, j'ai soif. D'accord, il a soif, il est fatigué, je lui donne de l'eau. Une fois qu'il a bu, il retrouve ses esprits. Il retrouve sa force. Il y a 10 chameaux, probablement il y a 10 hommes, ils sont costauds, ils ont bu. Maintenant, les chameaux, ils ont besoin de l'eau. Très bien. Pourquoi moi, Rivka, je dois servir aux chameaux? Pourquoi? Ce monsieur, il est là avec ses trucs, et ils ont toujours donné à boire. Pourquoi Rivka, elle propose de l'eau? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Mais après qu'elle donnait à boire, qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Ils mettent un ezem zahav à la pas. Ils mettent ici un anneau sur le nez. Ou shneit semidim al yadeha. Et 2 bracelets sur les mains. Pourquoi ils mettent les bracelets sur les mains? Quand on récompense quelqu'un, on le récompense mida keneged mida. La récompense, elle correspond à ce que l'autre il a fait. Ah, pourquoi les 2 mains étaient récompensées? Pourquoi les 2 mains? Pourquoi pas les oreilles? Pourquoi pas les pieds? Pourquoi les mis sur les mains?
Celles qui ont cuisé.
Quoi?
Celles qui ont cuisé.
Très bien. C'est avec les mains qu'elle a donné à boire de l'eau. Elle a puisé avec les mains, donc les mains méritent. Mais le nez, pour qu'est-ce qu'il a gagné le nez? Qu'est-ce qu'il a fait le nez? Pourquoi le nez, il a reçu maintenant un anneau en or? Qu'est-ce que le nez, il a fait? Mais le nez de Rivka était spécial. Il avait un bon flair. Elle a flairé les chameaux. Elle donnait à boire aux chameaux. Elle a senti que c'est des chameaux spéciaux. C'est pas des chameaux comme ça. En vérité, Rivka, quel était le plus grand geste que Rivka elle a fait dans sa vie? Quel est le sommet de Rivka? Chez Abraham Avinu, la Torah nous raconte quel était le sommet d'Abraham. C'était la Akeda. Le 10e des épreuves, la Akeda, ça c'était la chose la plus grande. Très bien. Et quelle était la chose la plus grande de Rivka? Alors la Torah raconte que Yitzhak qui voulait donner la bracha à Esav. Rivka l'appelle Yaakov et dit à Yaakov, il faut pas laisser la bracha chez Esav, il faut que toi tu reçois la bracha. Va, je te fais le gibier et tu vas aller chez Yitzhak. Et Yaakov il tremble. Oulai Moucheni avi, va iti benafkim tateya. Peut-être mon père va me tâter et il va voir que je ne suis pas Esav, je suis Yaakov. Et je serai à ses yeux un tricheur, un gangster. Et il va, mais à la place de me bénir, il va me dire le contraire. Ah, ça c'est un problème. Si Yitzhak va maudire Yaakov, alors là c'est la fin du monde. Alors Rivka, il dit, je le prends sur moi. Écoute-moi, ça sera bon, écoute-moi, il faut que tu m'écoutes. Mais ici, un danger de mort, ici, c'est qui tout double. Ou ça réussit, ou ça rate. Si ça rate, c'est la malédiction de Yitzhak sur Yaakov, c'est terrible. Et Rivka a décidé, ça va réussir. Mais sur quoi elle s'appuyait? Mais Yaakov, il part logique, mon père risque de me tâter, et il le tâtait. Il ne l'a pas remarqué. Mais c'est archi, il a tâté ici et ici. Bon, il a mis ici le truc, le katiadav. Il tâte. Et la voix, c'est la voix de Yaakov. Il tâte. Et il n'a pas remarqué. Et comment Rivka, sur quoi elle s'appuyait, d'imaginer qu'il ne va pas remarquer la magouille? Alors le texte, il dit, « Vayarach Yitzhak et Reyach Begadav ». Et Yitzhak, il a senti l'odeur des habits. Les habits que Rivka donnait à Yaakov, c'était les habits du Gan Eden. C'était les habits d'Adam et Rishon. Ils avaient un parfum du Gan Eden. Mais quand Esav, il les habillait pour servir à son père, alors Yitzhak n'a jamais senti cette odeur. Parce qu'Esav, avec abruti comme il était, avec ses avérot et son mauvais odeur, il a neutralisé l'odeur du Gan Eden. Alors chaque fois que lui, Yitzhak n'a pas senti cette odeur. Et Rivka, elle se dit, maintenant je mets sur Yaakov. Yaakov n'a pas de bonne odeur, il n'a pas de mauvaise odeur d'Esav. Donc ses habits donneront l'odeur. Et Yitzhak, il va sentir l'odeur du Gan Eden. Et il va comprendre que l'homme devant lui, c'est le tzaddik, c'est l'odeur du Gan Eden, il va donner la bracha. Ça, c'est ce que Rivka a calculé. Elle ne s'est pas trompée. Elle a réussi le coup. Vayar, c'était l'odeur du Gan Eden. Rivka, elle a été mariée avec un homme qui a une odeur. L'odorat, la Gemara nous dit, un homme qui est pur, il peut sentir du parfum que les autres ne sentent pas. Il y a une histoire dans la Gemara qu'il y avait un rave, il avait un fils, et le père, il avait un étrog, il l'a caché, il l'a mis dans sa poche, il a amené un petit cadeau, mais il ne voulait pas le raconter tout de suite au fils. Et le fils, il a dit, ici, il y a une odeur d'un étrog. Et le père, il a dit, tu as senti l'odeur? Il dit, oui, je le sens. Il dit, ah, je suis heureux, mon fils, je sois que tu es pur. Tu es sans péché, tu as senti. Sur Mashiach, il est écrit, quelle est la madriga de Mashiach plus que les autres prophètes, apparemment chez Rabbeinu, Vehericho Beirat Hashem. Il a l'odeur de Yirat Hashem. Tous les juges du monde, pour savoir quand deux personnes se trouvent devant un juge, un dit la vérité et l'autre il ment. Comment savoir? Comment détecter? Eh bien, il faut des témoins. Il faut parler, il faut regarder, il faut discuter pour extraire, pour que le juge il sait qui est-ce qui ment et qui est-ce qui dit la vérité. Alors sur Mashiach c'est marqué « Lo le mare einav yishpot ». Il n'a pas besoin de juger avec la vision de ses yeux. « Lo le mishma ozen yishpot ». Il n'a pas besoin d'écouter le témoignage. « Veheiricho beirat Hashem ». C'est avec l'odorat. Mashiach il va venir deux personnes. Ça sent mauvais. Ça sent bon. Lui dit la vérité, lui c'est le menteur. Mais c'est pas quand autour de personnes, le monde entier va juger. Mashiach sera un grand juge. L'odorat, c'est la chose la plus fine. Mashiach, il va sentir qui dit vrai, qui dit faux, surtout dans le monde. Et ça, c'est Rivka, il avait aussi cet odorat. Rivka était devant les chameaux. Ils ne sont pas comme des chameaux normaux. Mais ça, c'est une odeur, c'est ça. Ah, c'est une odeur du Gan Eden. Ah, je veux donner à boire, c'est des chameaux spéciaux. Elle a dit, ah, elle a compris que mes chameaux, les chameaux de son patron, ne sont pas des chameaux normaux. Eh bien, il a tout de suite mis ici, Nezemba'afa. Vous avez une bonne nez, mademoiselle. Vous avez bien compris. Et vous allez épouser un homme qui aura aussi un bon odorat. Et sachez-le que votre mari aura aussi un bon odorat. Vous êtes le Batzoug. C'est un bon nez. Vous êtes destiné à un homme qui a aussi un bon nez. Pourquoi il fait cette allusion à Rivka? Pour qu'elle sache, 60 années plus tard, quand il arrive le moment critique, et qu'il faut savoir est-ce que je dis à Yaakov de rentrer ou pas. Oui, c'est ça qu'Eliezer voulait dire. J'ai un bon nez, Yitzhak a un bon nez. Je vais mettre ses habits et Yitzhak va déjà sentir l'odeur de Gan Eden. Mais essayons de comprendre un petit peu mieux ces chameaux d'Abraham. On va revenir un petit peu par Parshat Lech Lecha. Parshat Lech Lecha, la Torah raconte qu'Abraham, il est descendu en Égypte. Il y avait la famine, il est descendu en Égypte. Il dit à Sarah, aïe, 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 tu es belle, ils vont te prendre comme femme, et moi, ils vont me tuer. Alors, s'il te plaît, imrina achotiat, la manite vliba abourech, vechaita nafshi biglalech. S'il te plaît, si je dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Alors, tu n'as qu'à dire que tu es ma sœur. Moi, je vais dire tu es ma sœur, toi, tu veux dire tu es ma sœur. Problème est réglé. La manite vliba abourech, comme ça, ils vont me faire du bien grâce à toi. Et je vais vivre grâce à toi. Très bien. Elle était d'accord. Paro, il a pris. Sarah, elle a fait une gedolim. Elle a dit au malach de frapper. Toute la maison tombe malade. C'était tous en train de mourir. Et Paro, il a rendu Sarah. Alors, après qu'il a rendu Sarah, il a renvoyé. Mais quand Abraham il est parti, il était riche. D'abord, le texte, il dit comme ça. Il a donné, quand il a pris Sarah, il croyait que sa sœur, il a pris Sarah, il a donné à Abraham Tson ou Bakar, Vachamurim, Ugmalim, Vavadim, Ushfachot. Il a donné plein des animaux à Avadim Ushfachot, plein des animaux. Alors, il est devenu riche. Mais il n'a pas donné argent ou or. Paro n'a pas donné argent ou or. Makir Chumash, Tson, Ubakar, Vachamurim, Vahatanot, Ugmalim, Vavadim, Ushfachot. Ni or, ni argent. Très bien. Après le lendemain, il a rendu Sarah, et Abraham, il est parti. Et le texte, il dit, va Abraham, kaved meod, ba mikne, ba kesef, ou ba zahav. Il était très lourdement chargé, mikne, troupeau, et avec kesef et zahav, et l'or et l'argent. Mais d'où il avait l'or et l'argent? Paro n'a pas donné or et argent. Paro n'a donné que des animaux. Alors d'où il a de l'or et de l'argent? D'où c'est bien cet or et argent? Il a gagné à la bourse, comment il a fait? Il a vendu les troupeaux, une partie des troupeaux. Il a échangé en or et en argent. Et pourquoi il a échangé en or et en argent? Alors le texte il dit après, « Vayelech lemasaav ». Il voyageait d'Égypte en Eretz Kenaan. « Vayelech lemasaav ». Il a pris exactement la même route d'aller pour le retour. Rashi explique. Parce que pour l'aller, il n'avait plus d'argent pour payer la nourriture et l'hôtel. Il est venu avec des milliers de gens, tous les gens qu'il a fait à Haran, toute une cour. Il fallait les nourrir et Abraham n'avait plus assez d'argent. Il partait dans des hôtels et il a dit, monsieur hôtelier, j'ai pas d'argent sur moi. Est-ce que vous voulez quand même donner à manger, nous loger? Et quand je reviens, je vous payerai la dette. Et ils ont dit, bon d'accord, on vous fait crédit, monsieur. Alors il a fait des crédits à chaque hôtel. Donc il est venu en Égypte, il a dit, il faut que je devienne riche là-bas. Alors quand il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, le man yitavli bavurecha, afin qu'on me fait du bien grâce à toi. Quel bien? Qu'on ne va pas me tuer. C'est pas grâce à elle. Si tu dis tu es ma sœur, ils ne vont pas me tuer. C'est-à-dire quoi? Ils vont me faire du bien. Rachidi, ils vont me faire des cadeaux. Elle dit, si tu dis tu es ma sœur, je marie ma sœur, donc je vais recevoir des cadeaux. Donc je voudrais bien gagner des cadeaux. Pourquoi il avait besoin de gagner les cadeaux? Parce qu'il faut payer les dettes. Il espérait de recevoir de l'or, de l'argent pour payer les dettes. Alors la parole lui a donné des animaux. Mais avec des animaux, on ne peut pas payer des dettes. Mais il a reçu les animaux. Mais à la fin, il avait de l'or et de l'argent. Comme il avait l'or et de l'argent. Alors, plus tard, dans Parshat Toldot, semaine prochaine, des textes, il dit que Yitzhak était riche. Vayelech haloch vegadel at ki gadal meod. Yitzhak était très, très riche, millionnaire est devenu. Et vayekanu bo pelishtim, et les pelishtim étaient jaloux. Rashi explique comment il est devenu tellement riche, Yitzhak. C'est parce que les animaux de Yitzhak, ils ont fait leurs besoins. Un animal fait ses besoins. Mais les besoins des animaux de Yitzhak n'étaient pas comme les animaux, comme la bouse des vaches normales. Là où c'est tombé, le blé, l'orge et les carottes, tout a poussé merveilleusement. Et les plishtim, ils ont remarqué, mais il y a une bracha, ces animaux, ils sont magiques. C'est la poule qui met des œufs en or. C'est des animaux, ils font la bouse. Tu mets un kilo de bouse, ça te pousse une tonne de blé. Alors les gens, ils ont commencé à acheter. Ils sont venus chez Abraham. On peut prendre un kilo de cette bouse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? On a remarqué, je mets dans le jardin, ça me fait des fruits de folie. Il dit, bon, vous payez 10 francs le kilo. 10 euros le kilo. Ah, vous payez 10 euros le kilo. Après, il a vu, les gens, tout le monde se jette. Il dit, 20 euros, 30 euros. Il est devenu très riche. Yitzhak. Il est devenu tellement riche. Rashi raconte, les gens, ils disaient, Zevel behemotav shel Yitzhak, velo kesef zahav shel Avimelech. On préfère un kilo de bouse de vache de Yitzhak que un kilo d'or d'Avimelech. C'est pour ça qu'ils étaient tellement jaloux. Comment Bémet y avait-elle bracha dans la saleté des animaux? C'est parce que ce qui sort du corps, ça dépend de ce qu'on a mis dedans. Les animaux qui volent pas, avant il faisait attention que ces animaux ne volaient pas. Il mettait une muselière sur la vanne, il est marqué Vaifatach Hagemalim. Il a ouvert la muselière des chameaux. Les chameaux d'Abraham, ils étaient tzadikim. Ils ne mangeaient pas ce qui leur appartenait pas. Quand tu donnes à manger à un chameau que ce qui est propre, eh bien, il y a une bracha. Et même la saleté, il y a une bracha. Ça, c'est le sens. Le man yitavli ba'avourech. Vachaita nafshi biglalech. Il y a une double expression. Yitavli ba'avourech. On va me faire du bien grâce à toi, je vais devenir riche. Vachaita nafshi. Et ma vie va vivre biglalech. Avec ton galal. C'est quoi galal? Galal, c'est la bouse des vaches. Ça s'appelle galal dans la Torah. Biglalech, le galal, ces animaux que Paro va me donner. Grâce à ça, je vais devenir riche. Eh bien, Abraham, tout de suite, il a vendu les galal. Les Égyptiens, ils ont compris. Alors, il a eu de l'or et de l'argent. Donc, quand il a quitté, Abraham, kaved mo'od, ba mikne, ba kesev ozahav. Oui?
Ça veut dire qu'Israël, il a accepté de donner sa femme. Avram, ça veut dire qu'il a accepté de donner Sarah, en fait.
Il a accepté les animaux. C'est marqué dans le chômage.
Ah, j'avais jamais réalisé qu'il a accepté de donner Sarah.
Oui, c'est marqué dans le chômage. Il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur.
Oui.
Comme ça, ils ne vont pas me tuer. Paro, il va te prendre et il va me donner des cadeaux grâce à ça. Mais c'est ça marqué dans le chômage.
J'ai jamais réalisé. Ok.
Ah, comment on peut vendre sa femme, vous demandez? Oui. Ben parce qu'il savait qu'elle va se défendre. Paro, il ne va pas la toucher. Il était sûr que Paro ne peut pas la toucher. Quand Paro il s'est rapproché, eh ben, Sarah elle a dit que vous aurez la choléra. Un autre est venu, la typhus, et que vos yeux sont crevés. Elle a dit, oh malach, frappe, va negaim gedolim. Tous les plaies d'Égypte, qui étaient après Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte, ils ont reçu des plaies. Mais c'est Sarah qu'elle a préparé ses plaies déjà. Vaïnaga Hashem et Bet Paro Negaim Gedolim Bet Beto. Toutes les maisons étaient malades. Je vais voir cette Sarah. Que vos yeux crèvent. Baf, les yeux sont crevés. Je veux toucher cela. Que vos mains sont secs. Les mains sont devenues secs. Et c'est pour ça Hagar était si excité. Rashi raconte. Hagar était la fille de Paro. Il a dit, mais c'est merveilleuse. Mais elle fait quoi cette dame? Elle dit au malade de frapper et ça marche. Mais elle est géniale. Paro était abasourdi. Après, il dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Elle dit, mais vous n'allez pas me toucher. Comment vous faites ça? Elle dit, je suis la femme d'Abraham, le tzaddik. Oulala, je vous rends tout de suite. Mais les cadeaux, il a déjà donné la veille. Donc, Abraham était sûr, personne ne va toucher Sarah. Après, Abimelech aussi, on ne l'a jamais touché. Alors, il a gagné les animaux, il a gagné même la bouse des vaches, et avec ça, il a fait de l'or et de l'argent, et il a payé toutes ses dettes. Chaita nafshi, mon âme peut vivre, ça veut dire, je me sentirais mieux une fois que j'ai payé mes dettes, parce qu'il ne voulait pas, un homme qui emprunte, il ne rembourse pas la dette, c'est un voleur. Il se sentait pris à le truc, je ne peux pas rembourser les dettes, il faut que je ne peux pas vivre sans rembourser les dettes. Eh bien, avec ton galal. Et là, on comprend quelque chose de très important. Le texte, il dit, quand il a quitté Abraham, il a quitté Lot. Le texte dit tout de suite après, il était avec Lot. Il avait un neveu, Lot. Lot avait des animaux, Abraham avait des animaux. Il n'y avait pas assez de terre pour porter Abraham et Lot. Alors, ils se sont disputés tous les jours. Alors Abraham, il a dit à Lot, écoute, je ne veux pas qu'on se dispute. Va là-bas, et moi je vais ici, on arrête de se disputer. D'accord, ils sont partagés. Cette histoire, elle est incompréhensible. Le texte dit, il n'y avait pas assez de terre pour les troupeaux des deux. S'il n'y a pas assez de terre, ça ne sert à rien de se séparer, la terre n'est pas devenue plus large. Quel est le sens de Chumash? Ils avaient quoi? Ils avaient 10 000 mètres carrés. Bon, un exemple, ça ne change pas. Ils ont ici un terrain de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés suffit pour pour 1000 animaux. Mais ils avaient 2000. Il y en a trop. Il n'y a pas assez de place. C'est quoi la solution? De prendre encore un autre terrain pour beauté. Mais ça ne sert à rien de se séparer. Si on reste sur le même terrain, ensemble ou séparé, le terrain n'est pas plus grand. S'il n'y a pas assez de terrain, il faut agrandir le terrain. Alors il faut qu'Avram et Lot, il dit, viens, on va chercher encore d'autres terrains. Mais on peut toujours rester ensemble. Pourquoi il a besoin de se séparer? Il dit, il y a 10 000 mètres carrés, ça ne suffit pas pour nous deux. Nous, alors, monsieur Tonton, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a trop d'animaux, il faut ajouter des terrains. Très bien, on ajoute des terrains. Alors, on va chercher brouter un peu plus loin. Mais pourquoi il faut se séparer? Restons ensemble. Alors, on m'a dit, non. Pour qu'on s'arrête de se disputer, il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Mais le pshat, il est... Lot, il a remarqué que les animaux d'Avram sont magiques. Les animaux, les vaches et les chameaux et trucs, ils font la bouse et ça donne une bracha. Mes animaux, ils n'ont pas de bracha. Et ces animaux, ils ont envie une bracha. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont pris cette bouse de vache, ils ont dit ça vient de nos animaux. Avram a dit, arrête de voler. Non, ce n'est pas du vol, c'est à moi. Il dit, cette bouse vient de telle vache? Oui, c'est bien de ma vache, pas de votre vache. Ah bon? Tu n'as pas volé? Non, je n'ai pas volé. Ah, on dit, bon, d'accord, tu sais quoi, on va séparer. Prends tes animaux ici, moi j'ai mon animal ici. Tu auras ta bouse et moi j'aurai ma bouse. Voilà, c'est ce qu'Abraham il a fait. L'autre, il voulait voler. On raconte sur la Chafetz Chaim, quand il était jeune, comment était sa parnassa? On dit qu'il avait une vache. Et elle donnait du lait. Et la femme de Chafetz Chaim, ils vendent du lait. Avec ce conseil, ils ont vécu. Mais les goyim, ils ont remarqué que cette vache, elle est magique. Comme ça, on raconte. Ils ont vu que là où la vache de Chafetz Chaim se promène, elle fait ses besoins, ça pousse bien. Alors tous les voisins, chaque jour, il y a un autre qui lui a volé sa vache. Le matin, est venu un goy voler. Il a volé la vache. Il a dit, vas-y, promène-toi ici, comme ça, il y a une bracha. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec cette vache, mais il l'a vendue après. Il n'avait plus de vache, on lui a volé toujours la vache. Ouais. Même dans la chose la plus bête de la vache, aussi il y a une bracha dedans. Quelqu'un qui vit sans vol, il y a une bracha dans ce qu'il fait. Mais en vérité, Lot, il est un peu difficile à comprendre. Comment Lot, il a osé de voler la bouche de vache d'Abraham? Mais il ne faut pas penser que Lot, c'est un archi-truc. À Lot aussi, il est pas mal, Lot. Pourquoi? Rashi raconte quand Lot il était à Sodom, Vayizkor Elokim et Avraham, et il a sauvé Lot mitoch ha'afecha. Vayizkor Hashem, il s'est rappelé, Lot il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait bien dans sa vie? Rashi raconte qu'il se tue quand Avraham il a dit, Sarah c'est ma sœur. Avraham il a dit, Sarah c'est ma sœur, mais Sarah n'était pas la sœur d'Avraham, elle était la sœur de qui? De Lot. Lot, il aurait pu dire à Avram, c'est pas ta sœur, c'est ma sœur. Mais Avram, il a dit, c'est ma sœur. Et Lot, il leur a dit. C'est grâce à ce srout que Lot, il avait, Dieu, il a sauvé Lot. Mais, à première vue, c'est incompréhensible. Mais si Lot, il va dire, c'est pas la sœur d'Avram, alors Avram, il va mourir, ils vont tuer Avram. Alors, quel intérêt, Lot? Il aurait pu dire, vous êtes menteur, tant que tu es menteur, c'est pas ta soeur, c'est ma soeur. Alors toi, tu veux que je meure? Quoi? Lot, c'est un tzaddik parce qu'il n'a pas livré Avram à la potence de Paro. Ça, c'est un petit coup de Lot. Mais c'est normal, on va pas dénoncer un juif. Parce que c'est un grand petit coup. Mais le pshat, il est comme ça. Avram, il a dit à Sarah, dis que tu es ma soeur et Paro, il voudrait te marier. Autrefois, c'est où le père mariait sa fille. Et s'il n'y a pas de père, c'est le frère qui mariait sa sœur. Donc, ils vont me donner des cadeaux. Alors, l'autre, il est venu chez Abraham, il dit, tonton, c'est ta sœur ou c'est ma sœur? Il dit, oui, c'est ta sœur. Alors, tu sais, tu peux dire à Paro que tu peux dire que tu es l'oncle. Et moi, je suis le frère. Pourquoi Abraham, il a dit, Sarah est ma sœur? Il n'a qu'à dire la vérité. Sarah, c'est la sœur de Lot. Et moi, je suis l'oncle. C'est pas ma femme. Je suis l'oncle. Abraham, il aurait pu dire comme ça. Qui aurait reçu les cadeaux dans ce cas-là?
Lot.
Alors, Lot, il dit à Abraham, si toi, tu dis, toi, tu es, elle est ta sœur, toi, tu es les cadeaux. Dis la vérité, que moi, je suis le frère, c'est ma sœur, et moi, je reçois les cadeaux. Alors, Abraham, il a dit, mais toi, cadeau, ils m'ont donné 10 000 euros, pour moi, ils m'ont donné 1 million. Toi, tu n'es pas Hassouf, moi, je suis connu, moi, je suis Hassouf. Pour toi, ils vont te donner 10 000. Pour moi, ils m'ont donné 1 million. C'est pas mieux de gagner 1 million que 10 000. Alors l'autre, sûrement, il a dit, oui, mais les millions, c'est toi qui prends. Mais c'est injuste. C'est injuste. Et sûrement, Abraham, il a dit, mais les 10 000, je t'ai déjà donné quand j'ai marié Sarah. Qu'est-ce que tu veux, toi? Abraham, il a marié Sarah. Mais l'autre était le frère. Donc sûrement, l'autre, il a demandé déjà le prix de radin qu'il était. Il a dit, tu veux te marier avec ma sœur Sarah? Tu me payes. D'accord, combien? 10 000. Je te donne 10 000, je t'ai payé. Il a marié. Donc, elle est ma femme. Maintenant, je ne peux pas dire qu'elle est ma femme parce qu'elle part au risque de me tuer. Donc, j'ai dit qu'elle est ma sœur. Et ça va me faire rentrer 1 million. Avec ça, je paye mes dettes. Alors, tu dis, mais c'est moi le frère. Alors, tu veux encore 10 000, mais je t'ai déjà payé les 10 000 congés. Alors, l'autre, il aurait pu discuter. Il aurait pu dire, c'est injuste, cette histoire-là. Mais il n'a pas fait d'histoire, oui.
Mais quelque part, c'était un peu malhonnête de la part d'Abraham de gagner cet argent alors qu'elle n'était pas mariée, Sarah.
Qui n'était pas mariée?
Elle n'était pas à marier, elle était mariée.
Oui, alors donc c'est ma femme.
Oui, mais il a pris des animaux qui ne lui revenaient pas. Parce que
ça lui revient, parce que c'est grâce à elle qu'il y a des cadeaux. Mais oui, cadeaux viennent grâce à Sarah. Si je suis mariée, si ma femme gagne le loto, j'ai gagné.
Oui, mais le contrat, il n'était pas honnête, parce que Sarah, elle était mariée.
Mais Sarah était donnée avec plein gré pour Abraham. Sarah et Abraham, c'était la même caisse. Hein. Ils avaient un compte en banque ensemble.
Du point de vue d'Abraham, de prendre ses animaux alors que Sarah était mariée et que ça, c'est un gage de mariage, c'est malhonnête.
Vis-à-vis de qui, c'est malhonnête?
Vis-à-vis de Paro.
Paro. Ah, il faut être honnête avec Paro en plus.
Oui,
abruti qu'il est.
Oui.
Mais non, Paro, il voulait tuer Abraham. Alors je dis que c'est ma sœur. Et il a... Paro, c'est un gangster. Paro, il prend des femmes sans demander permission. Si Paro, il dit, est-ce que votre sœur est à marier? Est-ce que Sarah, vous voulez vous marier avec moi? Non, je ne veux pas. Eh bien, je vous prends quand même.
Okay. Ouais,
c'est ça que Paro, c'est un gangster. Mais Sarah n'est jamais voulu se marier avec Paro. C'est un Paro, il fait ce qu'il veut et il prend. Alors, tu prends? Alors, Abraham dit, attends, c'est ma sœur. Ah, alors je peux me marier avec elle. Et ça coûte d'argent, monsieur. Ah, je vous paye tout ce que vous voulez. Alors, paye. Maintenant, Lot, il s'est dit, mais il a quand même dit, c'est ma sœur. Il a dit que c'est sa sœur. Il a dit, c'est ma sœur. C'est pour ça, Lot, après, il a ramassé la bouse des vaches d'Abraham. Il a dit, j'ai le droit, je ne suis pas un voleur, moi. Il considérait que ça lui revient de gré. Abraham, il pensait probablement non. J'ai épousé Sarah, je t'ai déjà payé, maintenant c'est ma femme, les bénéfices étaient à moi, mais l'autre n'était pas un voleur entier. Il considérait que ça me revient, il me faut me donner. Et sûrement, Abraham lui a donné une partie, mais ils ont voulu un peu trop, sûrement. Abraham, il a donné aussi à l'autre. Rashi raconte, l'autre, il était béni parce qu'il était proche d'Abraham. Une fois qu'il s'est séparé, il n'était plus béni. Tant qu'il était Abraham, il était béni. Parce que Kaniré, que la baracha d'Abraham était influencée aussi sur Lot. Mais Lot, il voulait un peu plus. Il voulait trop. Alors là, il dit, on va se séparer. Comme ça, on verra si ma baracha... Tant qu'on est ensemble, il y a un baracha. Mais tu vas se séparer. Tu veux trop? Quand on veut trop, même ce qu'on a, hein, on perd. Bon.
Ça
va. Oui?
Comment ça se fait qu'Abraham va à ce point des cadeaux alors que ce n'est pas son tempérament de base dans les autres endroits?
Mais il avait des dettes, Rachidi. Il faut payer les dettes.
Envers
qui? Vis-à-vis de l'hôtel. Il avait 10 000 personnes avec lui, des gens de Haran. Ça, il est nourri, logé. Abraham était obligé de le payer, toute sa yeshiva, tout ce kollel, tout ce truc. Il avait des dettes, il avait besoin d'argent. Et ça, c'est un route pour Paro. Si Akadé Bokhi donnait beaucoup d'argent à Paro, Mais comme le Ramban, il dit que pourquoi il voulait les cadeaux, il avait une autre intention. Parce que les Juifs, ils vont travailler plus tard en Égypte. Et quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont reçu l'argent. Et tout ce que les Juifs après, ils ont fait, les Avot, ils ont fait en petit. Ils ont préparé. Donc Abraham, il est descendu. Sarah, il a donné des coups. Ça, c'est les coups qu'après Moshe Rabbeinu a donné à Paro. Et l'argent que Moshe Rabbeinu a reçu, c'était l'argent qu'après les Juifs ont payé, les Égyptiens ont payé aux Juifs. Il fallait tout préparer ça en petit, ce qui arrivera après en grand dans l'histoire. Mais l'argent n'a pas d'odeur, vous savez, c'est permis, l'argent cachère est permis. C'est interdit de voler. Abraham ne cherchait pas d'argent à voler. L'argent honnête, oui. Et comme le proverbe dit dans la Gemara, la richesse d'un homme se vient grâce à sa femme. Donc Abraham, il s'est enrichi grâce à Sarah, c'est marqué. Puisque Sarah, il s'est enrichi. Automatiquement, Abraham est devenu milliardaire, Sarah aussi, elle était milliardaire. Ça marche ensemble. Chez eux, ils n'ont pas divorcé une fois qu'ils étaient milliardaires. Là, le chef d'Amazon, là, est devenu milliardaire, alors il a divorcé sa femme, vous connaissez? Amazon, le chef d'Amazon, le milliardaire. Une fois qu'ils ont 100 milliards, ils ont divorcé sa femme. Et la moitié, lui, la moitié. Où il a acheté les bijoux, Abraham, pour Sarah? Où il a acheté les bijoux? Je pense qu'il a acheté Amazon. Parce que c'est marqué, il a donné Hanezem à la part. Hanezem, ça s'écrit Amazon. Bon, ça c'est bon.